RCF.
Jacques Semelin, on a compris avec vous à quel point la figure de Gandhi est fondamentale dans l'histoire du combat non violent. Pourtant, la Première Guerre mondiale précède le début de l'action de Gandhi. Et on sait bien qu'il y a eu aussi une forme de résistance au cours de cette Première Guerre.
Exactement. Déjà, il faut penser aux poilus français et allemands qui, en 1916-1917, ont refusé de mourir. Et vous avez eu des actes de fraternisation sur le champ de bataille, n'est-ce pas? En même temps, vous avez des militants, en particulier souvent d'inspiration chrétienne, qui cherchent à travailler déjà à la réconciliation entre ces nations qui se font la guerre. Là, il faut citer la naissance de l'IFOR, International Fellowship of Reconciliation, qui vient déjà d'un Quaker.
En quelle année, là?
Ah, on est en 1915-1916, ça va être tout un embryon, ça ne va pas être bien important, mais c'est un Quaker qui s'appelle Henry Hopkins, et puis un pasteur luthérien qui s'appelle Friedrich Sigmund, qui ont l'idée de créer « A Fellowship of Reconciliation ». Donc il y a une réunion déjà à Cambridge en 1915, mais ça va être plus important, enfin ça va prendre corps après la Première Guerre mondiale. Et il y a cette rencontre aux Pays-Bas, qui est véritablement fondatrice de l'IFOR. Et le premier secrétaire général, c'est intéressant à noter, ça va être Pierre Cérézol, qui va créer le Service civil international.
Est-ce que l'objection de conscience existe déjà à ce moment-là et sous cette appellation-là?
Alors, l'objection de conscience, elle a été déjà un peu instituée, mais dans les pays scandinaves. Elle va évidemment être portée par des mouvements comme l'IFOR. Bien sûr, à suite de ce conflit énorme de la Première Guerre mondiale, des gens vont le porter de plus en plus. Deux pasteurs français qui vont se faire connaître par la suite, le pasteur André Trocmé, tout jeune, et le pasteur André Tess, vont rejoindre l'IFOR, le MIR, le Mouvement International de la Réconciliation. Et on va les retrouver au Chambon-sur-Lignon.
Qui vont être actifs, ces mouvements ou ce mouvement, dans l'entre-deux-guerres aussi?
Oui, mais ça reste assez marginal. C'est l'idée plutôt de la réconciliation. On n'est pas dans une action collective de lutte comme Gandhi, vous voyez. Ils sont fascinés, en particulier Trocmé est fasciné par la lutte de Gandhi. Mais on est plus dans l'idée de promouvoir effectivement l'objection de conscience. Et là, on est un peu entre le pacifisme, au sens anglo-saxon du terme, et la non-violence.
Alors l'action de Gandhi commence à être connue et répercutée à quel moment? Sur le plan international.
Dans les années 30, la grande action phare de Gandhi, c'est bien sûr la marche du sel en 1930. C'est vraiment ce qui l'installe sur la scène internationale. C'est une idée absolument géniale d'organiser une marche pendant 3 semaines pour aller au final récolter du sel au bord de mer. Action totalement interdite par les Anglais. Les Indiens n'avaient pas le droit de récolter le sel. Et donc Gandhi aussi, là, notez-le, on voit arriver les médias. Gandhi sait se servir des médias. Il devient très ami avec un journaliste américain. Et puis, il y a les actualités britanniques. Et donc, voilà, on va connaître Gandhi à l'échelle mondiale. C'est vraiment ça qui va le faire.
Mais, vous voyez, va diffuser sa pensée.
Sa stratégie non-violente. Ouais. Mais en même temps, gardez à l'esprit que la résistance civile, elle est pragmatique. Vous avez des gens qui veulent lutter et qui ne savent pas comment faire. Donc ils commencent par une forme de résistance non armée. Et ce n'est pas Gandhi qui va les inspirer, c'est qu'ils cherchent des moyens. Par exemple, vous avez, alors c'est très peu connu, le putsch de Cap, des commandos un peu d'extrême droite allemands qui veulent prendre le pouvoir dans la République de Weimar en 1920. Le président Hébert, Friedrich Hébert, s'y refuse et appelle la population à ne pas coopérer avec eux. Ça va marcher, c'est assez étonnant. On l'a un peu oublié, tout ça. 1923, les ouvriers allemands subissent l'occupation française dans le bassin de la Ruhr. Ben là aussi, vous avez des formes de résistance, de grève. Alors, on dirait résistance passive, certains journalistes. Mais non, moi, je dirais plutôt de résistance civile. Pourquoi parler de résistance passive alors qu'il y a des gens qui se mettent en grève, qui font des manifs et qui risquent de se retrouver en prison, voire connaître la peine de mort? C'est une domination du vocabulaire de la violence, si vous voulez. Donc, voilà.
Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis,
Il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer.
Extrait du film Gandhi, de Richard Attenborough.
Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne. Nous ne tuerons personne. Mais nous ne donnerons pas nos empreintes. Personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens. Mais ce qu'ils ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité.
Tu as déjà été en prison ? On est battu et torturé. Ce qu'il faut, c'est...
Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer. Nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot.
Donc revenons à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez évoqué tout à l'heure les figures de ces deux pasteurs français, hein, André Trocmé et André Theisse. Oui. Ces pasteurs vont mettre en place ce combat non violent, très pragmatique pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Disons qu'au départ, les deux premières années, disons 1940-1942, les populations sont totalement abattues et ne savent pas comment tenir tête à l'occupation allemande et à l'occupation nazie. Donc on peut parler d'une résistance de l'esprit. Et Theisse et Trocmé, en juin 1940, appellent à se défendre avec les armes de l'esprit. C'est tout à fait remarquable. Et dans la région où ils sont, donc du Chambon-sur-Lignon, ils vont surtout se concentrer sur l'accueil des réfugiés, et en particulier des réfugiés juifs. Voilà, on pourrait peut-être dire un petit mot plus tard, parce qu'il n'y a pas que les protestants, il y a aussi les catholiques qui se sont engagés dans cette action. Mais comme je vous disais que c'est un peu spontané, beaucoup de gens se réfèrent à des valeurs, en quelque sorte. Valeurs, liberté, égalité, enfin bon, contre la tyrannie. Et donc, vous allez avoir toute une série de presses clandestines qui va fleurir. C'est le premier moment. Donc c'est une résistance non armée. Moi, ça fait partie de la résistance civile. Et ensuite, dans l'Europe, vous avez des professions qui ont souvent une forte cohésion sociale ou qui ont des valeurs, qui vont se mobiliser pour s'engager dans des formes de résistance civile.
Par exemple ?
La France, on l'a totalement oubliée, mais vous avez une immense grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais en 1941, qui s'est soldée par des dizaines d'exécutions.
Mais ils se mettent en grève, pourquoi ?
Ils se mettent en grève parce que la région est sous-alimentée, parce qu'ils sont dans des conditions de travail épouvantables et ils veulent obtenir des droits et des augmentations de salaire, etc. Mais c'est sous l'occupation allemande. Et puis vous avez, alors plus loin aux Pays-Bas, des médecins qui refusent l'ordre des médecins. On l'a accepté en France, mais pas aux Pays-Bas. Donc ces médecins vont s'organiser pour refuser, à travers toutes sortes de mesures, ils vont même faire grève, les valeurs nazies qu'on veut leur imposer. Et ils vont gagner. Enfin, il va y avoir une sorte de compromis qui va leur laisser la liberté de la pratique.
Vous avez le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez.
Ça, c'est de la non-violence.
Mais comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? Ils vont pas, ils n'utilisent pas les armes. C'est une forme de résistance civile. C'est de la non-coopération. Les professeurs norvégiens, c'est la même chose. Ils résistent à travers des valeurs. En France, pour revenir à la France, vous avez un grand mouvement de désobéissance civile en 1943 pour refuser le service du travail obligatoire en Allemagne. Mais peut-être ce qui est le plus remarquable... En lien avec la non-violence et la résistance civile, c'est la protection des Juifs en Europe et en particulier en France. Et là, vous avez un double mouvement. Vous avez un mouvement, certes minoritaire, mais qui vient des évêques français, de protestation publique, pour dénoncer la déportation, l'arrestation et la déportation des Juifs étrangers. Notez qu'on ne sait plus trop, mais un évêque allemand a commencé à faire ça en 1941 pour l'euthanasie des malades mentaux. Vous savez qu'on a commencé par exterminer les malades mentaux. C'est Van Galen à Münster. Il a fait des protestations publiques en 1941 et les nazis ont compris qu'il valait mieux arrêter. Donc l'idée de la protestation publique, elle fait partie du registre de l'action non violente.
De la part de personnages influents ou qui représentent une certaine autorité.
Exactement. Et dans le cas de la France, c'est Saliège, c'est Gerlier, c'est Théas. Et l'Église catholique est un pilier de Vichy. Donc c'est véritablement un problème pour le régime de Vichy de voir, même si c'est...
Des voix discordantes,
même s'ils ne sont pas nombreux. Et puis à la base, vous avez des chrétiens, mais pas seulement des chrétiens, protestants et catholiques, qui vont se mettre à faire des formes d'entraide spontanée. C'est ce que j'ai étudié dans mon livre sur persécution et entraide. Voilà, donc là on a ce double mouvement. Et comment ne pas citer la grande dame, Hannah Arendt, qui parlait de la résistance non-violente du peuple danois, vous savez, en 1943, qui s'est mobilisé pour faire passer la petite communauté juive danoise en Suède, avec succès. Mais, il faut aussi regarder la France et constater qu'en dépit de la politique du gouvernement de Vichy et de sa collaboration avec l'Allemagne nazie, il y a eu en France un mouvement spontané de résistance civile et d'entraide pour les populations persécutées. Alors les Juifs, mais aussi, bien sûr, je disais un mot tout à l'heure, les jeunes qui ont refusé le service du travail obligatoire.
Merci beaucoup Jacques Semelin. On vous retrouve demain pour poursuivre.